Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Ce matin, le titre de mon message est celui-ci: la persévérance de la foi. La persévérance de la foi. Et nous savons à quel point la foi est importante. Nous savons à quel point tout est par la foi. Tout est par la foi. Même l'apôtre Paul va même aller plus loin. Non seulement l'apôtre Paul dit tout est par la foi, mais l'apôtre Paul dit tout est par la foi et pour la foi. La foi est extrêmement importante dans le royaume de Dieu. Mais la foi en qui? La foi en quoi? La foi en Dieu, n'est-ce pas? Et il y a quelques temps, on était en vacances, ma famille et moi, on a pris quelques jours de repos. On était là en Bretagne et vous savez que par ces temps-ci, la météo est assez incertaine, et si vous regardez un petit peu, si vous avez la météo sur votre portable ou à la télé ou sur Internet, ça dit n'importe quoi. Dans la même journée, ça dit soleil, nuages, pluie, vent, tonnerre, grondage, n'importe quoi. Chaud, froid dans la même journée, il y a des variations incroyables, 6 degrés, entre 6 et 24 degrés, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et ma famille et moi, on est allés se reposer un petit peu sur la Bretagne, et comme un vrai citadin, j'y connais absolument rien, moi, au temps de la mer, au bord de mer, la vie au bord de mer, tout ça. Et Justine, mon épouse, était en train de se reposer. Et je suis sorti, je suis allé sur la plage. C'était la marée basse. Je suis allé avec mes enfants sur la plage et on voyait des gens partout, tout ça. Et on voyait des... Il y avait deux types de personnes sur la plage. Il y avait des touristes et il y avait des Bretons. Et les touristes, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, mais les Bretons, je sais ce qu'ils faisaient. Ils creusaient, c'était la marée basse. Ils avaient des outils et ils creusaient, ils cherchaient des coquillages, des huîtres, tout ça. Et moi, je regardais le temps, je regardais le ciel... Et le ciel était très, très incertain. Et moi, je connais absolument rien à ces choses-là. Alors, j'ai mis ma foi dans les Bretons. J'aimerais vous dire ce matin, ne mettez pas votre foi dans les Bretons. Et j'ai dit, on a commencé à y aller, c'était la marée basse, il y avait des chemins, on pouvait aller très, très, très loin. Il y avait des rochers très loin, très haut. Et je voulais aller me balader un peu sur ces hauts rochers qui étaient très loin en mer, et c'était la marée basse. Et je voyais, il y a des nuages qui arrivaient, des gros nuages, mais il y avait du soleil, c'était un peu tout mélangé. Et mes filles avaient un petit peu peur, mes filles avaient bien compris qu'il faut pas croire dans les hommes. Donc elles avaient pas mis leur foi en moi. Mais moi, j'avais mis ma foi dans les Bretons. Et j'avais dit, non, les filles, on y va, c'est bon, on peut y aller. J'ai dit, non, regardez, les Bretons, ils connaissent ça, eux, les Bretons. Ils connaissent la mer, c'est des gens de la mer, ils connaissent le vent, ils connaissent le temps, tout ça. Et si eux, ils restent là, on peut y aller, c'est bon. Alors, on y va, on descend, on va très, très loin, on se met. Et mes filles, tout à coup, je me retourne, et je suis en train de gravir un rocher, je me retourne, mes filles sont là en bas, les deux derrière. Nous, on n'y va pas, papa. J'ai dit, allez, venez, ayez confiance en moi. Non, pas confiance en toi, papa. Non, ayez confiance en les Bretons. Les Bretons connaissent la mer, donc ils savent que c'est bon, on peut y aller. Et tout à coup, je vois cet immense nuage, et on entend le tonnerre qui se met à gronder. Mais un tonnerre. Et là, mes filles, papa. Et moi, je regarde les Bretons. Les Bretons bougent pas. Je dis, c'est bon, j'ai confiance en les Bretons. Les Bretons connaissent la mer. On y va, on continue et tout. Et ce nuage arrive. Je regarde le vent, je me dis, tiens, je m'improvise marin un instant. Je me mets à sentir le vent. Je dis, non, franchement, le vent va pousser les nuages par là-bas. Ça va être bon. Non, les filles, ça va être bon. Papa, non. Hey, écoutez votre père. Allez, venez. Et on continue. Et tout à coup, touc, une goutte de pluie. Je me retourne, je regarde les Bretons. Les Bretons bougent pas. Je dis, c'est bon, on continue. Deux gouttes de pluie. Papa, on devrait rentrer, ça tonne et tout, le ciel est noir. Je regarde les Bretons. Non, on reste là. Moi, j'ai confiance dans les Bretons. Et tout à coup, le ciel nous est tombé sur la tête. Mais franchement, là, le nuage au complet, je vous raconte pas, une douche, une chute. Je sais plus combien de tonnes d'eau on s'est pris. Et là, j'étais complètement trempé. Mes deux filles me regardent. Mais papa, tu nous avais dit... Et moi, je me retourne vers les Bretons. Ils sont toujours là. Mais ils avaient sorti les parkas. Et voyez-vous, on peut mettre notre foi dans les hommes, on sera déçus. J'aimerais vous inviter à mettre votre confiance en Dieu ce matin. En lui, vous ne serez jamais déçus. Et dans Hébreux, il est écrit, l'homme, il reprend le prophète Malachie, et l'auteur aux Hébreux nous dit ceci dans Hébreux 10, il dit, « Viendra un moment où mon juste vivra par la foi. » Il vivra de sa foi. Mais j'ai trouvé une très belle traduction de la Bible cette semaine qui dit, mais s'il recule, s'il se retire, hein, nous on connaît la version classique qui dit, s'il se retire, mais j'ai bien aimé cette version qui dit, mais s'il se met à reculer, Dieu avance et tout à coup il t'amène à quelque part, tu dis, mais où est-ce qu'il m'amène le Seigneur, où est-ce que ma vie chrétienne s'en va, et tout à coup t'as envie de reculer, et la Bible elle parle du cœur de Dieu, et Dieu dit, mais s'il recule, mon âme ne prend plus plaisir en lui. J'aimerais qu'elle marche avec moi. J'aimerais qu'il marche avec moi. J'aimerais qu'il ait confiance avec moi à travers mer et monde et marée et tempête. J'aimerais qu'il continue de venir et de marcher avec moi. Mon juste vivra par la foi. Et juste un petit peu, un tout petit peu avant cela, on arrive au chapitre 6. On recule au chapitre 6. Et ça apparaît maintenant à l'écran. Et l'auteur va encore parler de la foi. Tout est une question de foi. Tout l'épître aux Hébreux se construit pour nous amener à avoir confiance en Dieu. Et au verset 11, il est écrit ceci, « Mais notre désir est que chacun de vous montre la même ardeur à porter l'espérance à son épanouissement jusqu'à la fin. » Le désir de l'auteur aux Hébreux était que les chrétiens, les croyants, puissent avoir un épanouissement qui n'est pas d'un moment, qui n'est pas d'un instant, qui n'est pas d'un dimanche matin, qui n'est pas dû à un bon chant, à un bon groupe de musique ou à quelqu'un qui prêche bien ou ceci ou cela. Mais l'auteur aux Hébreux dit, notre désir, c'est que vous puissiez persévérer dans cet épanouissement. Il y a une vie chrétienne qui existe, qui est persévérante dans son épanouissement jusqu'à la fin. Regardez verset 12. Sans ralentir votre effort, il y a une force, il y a une continuité, mais en imitant ceux qui, comment? Par la foi et la persévérance, reçoivent l'héritage des promesses. Et on arrive juste avant notre texte où il est écrit « Mon juste vivra par la foi ». C'est la prochaine diapo qui apparaît. Et elle dit ceci, « C'est de persévérance que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses ». Ou la réalisation de la promesse. Et pour l'auteur aux Hébreux et pour la parole de Dieu, la vraie foi n'est pas une chose d'un moment. La vraie foi que Dieu veut mettre dans ton cœur et travailler dans ta vie est accompagnée d'une persévérance. C'est ce qu'il dit. Il dit, vous avez besoin de cette persévérance. Sans la persévérance, tu n'obtiendras pas la promesse. Sans la persévérance, tu n'obtiendras pas ce que Dieu a pour toi. Sans la persévérance, tu n'arriveras pas à entrer dans cette vie d'épanouissement que Dieu a prévu pour toi. Il faut un épanouissement. Il faut cette persévérance dans nos vies. J'aimerais vous dire ceci ce matin. La foi est plus qu'un intérêt porté aux choses de Dieu. La foi, c'est plus que de porter un intérêt. C'est plus que d'ouvrir la Bible et de t'y intéresser et de la lire et de la scruter. Et il y a des chrétiens qui sont satisfaits en se disant soi-même, mais je scrute les Écritures, mais je cherche la Bible. Mais pasteur, je lis la Bible tous les jours. La foi va plus loin qu'une lecture. La foi va plus loin qu'une recherche. La foi va plus loin que scruter les Écritures. La foi est plus qu'un intérêt porté aux choses de Dieu. La foi dépasse le fait de se sentir concerné. Il y a des chrétiens qui se sentent bien, ça les rassure. Ah, j'ai encore le cœur sensible, je suis pas devenu insensible. Quand je lis la Bible, je me sens concerné. Quand Dieu me parle, je me sens touché, je me sens concerné, je me sens interpellé, je me sens remué à l'intérieur. Mais ça, la foi va plus loin que ça. La foi que Dieu veut produire dans ta vie va aller plus loin que le simple fait de te sentir touché par les choses, profondément touché. La vraie foi est plus profonde qu'un consentement ou une approbation. Il y a des gens qui vont relever leur cravate ou vont desserrer leur cravate en rentrant chez eux dimanche midi, même si la cravate est en train de disparaître. Peu importe, ils vont rentrer chez eux, ils vont se déchausser, ils vont se mettre dans le canapé, ils vont se sentir bien. Chérie, je suis allé à l'église ce matin, je suis un bon chrétien. Écoute, le pasteur a prêché, je me suis senti concerné, je me suis senti interpellé, je me suis senti remué, j'ai été touché. Certains d'entre vous, peut-être même, avaient déjà été touchés jusqu'aux larmes. Dieu vous a touché, vous en avez eu des larmes aux yeux, mais la foi va aller plus loin que ça. Ou peut-être que vous allez dire, mais ce que le pasteur a dit, j'approuve. Ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, je l'approuve, je suis consentante. La foi va aller plus loin que ça. La foi va aller plus loin que d'être touchée ou d'approuver. La foi va saisir ce que Dieu te dit. Elle va le prendre. Elle va se l'approprier, la vraie foi. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors, quand Dieu te parle, c'est plus que d'être touché, c'est plus que de dire c'est beau, c'est plus que de dire c'est un bon message, c'est plus que de dire je me sens concerné ou j'approuve ou toutes ces choses-là. La vraie foi que Dieu veut produire en toi, elle va prendre ce que Dieu dit. Écoute-moi bien, spirituellement, c'est une image, mais elle va le manger. L'homme vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture, pas pour ton corps, mais pour ton âme, pour ta pensée, pour ton cœur, pour ta vie. Et comme la nourriture entre en nous et elle va... Ce que, vous savez, il y a un vieux dicton qui dit « You are what you eat ». Nous sommes ce que nous mangeons. Il y a des gens, à vous regarder, on voit ce que vous mangez. On voit que vous mangez des bonnes choses. Vous avez l'air en santé. Mais nous sommes ce que nous mangeons. Et la vraie foi, elle prend ce que Dieu dit. Elle l'assimile, elle le digère. Et ce que Dieu dit va aller dans tous les aspects, dans toutes les cellules, dans tous les aspects de ta vie. C'est ça la vraie foi que Dieu veut produire en nous. Mais il y a une caractéristique essentielle et fondamentale. C'est un attribut central de la foi, mes amis. La foi est persévérante. La foi, elle est dans la constance. La foi est quelque chose de continu. Et nous allons regarder ensemble à deux choses ce matin rapidement, ça ne sera pas un long message. Nous allons regarder premièrement à l'indispensable persévérance de la foi. Et deuxièmement, nous allons regarder que Dieu dispense la persévérance. L'auteur aux Hébreux ici souligne à maintes reprises. Et si vous avez des petits moteurs de recherche ou quelques moyens d'étudier la parole de Dieu, je vous encourage à la maison, vous allez voir que le mot persévérance revient beaucoup dans le Nouveau Testament. Il va prendre différentes connotations. Il peut être traduit parfois par le mot patience, par le mot endurance, par le mot persévérance, mais ça revient toujours à cette même pensée. La persévérance était très importante pour les chrétiens, les premiers chrétiens, il y a 2000 ans. Et quand on parle de persévérance, j'aimerais vous dire ceci. Un moment de foi dans ta vie, un élan de foi, un coup de foi, c'est pas ça la vraie foi. Ça, c'est de l'entrain humain. Ça, c'est des émotions. Et parfois, aujourd'hui, il y a des gens qui vont susciter des émotions à d'autres personnes pour les amener à croire en Dieu. Il y a des gens qui vont essayer, ça peut être par un chant, ça peut être par une prédication, ça peut être de toutes sortes de façons. Parfois, un être humain peut susciter des émotions chez un autre être humain. Mais c'est juste de l'entrain. On peut parfois s'automotiver, mais c'est plus profond que ça la vraie foi. La vraie foi, c'est pas un moment, c'est pas un élan, c'est pas un coup de foi. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Comprenez? Dites, C'est une vie de foi. Tu construis pas ta foi sur un moment. Tu construis pas ta foi sur un dimanche matin ou sur un mardi soir. Tu construis pas ta foi sur une lecture de 15 minutes à tous les matins à lire la Bible. Tu construis ta foi. Tu entres dans ce que Dieu veut pour toi. Et mon juste vivra par la foi. C'est tout ce que Dieu te demande, d'entrer dans une vie de confiance, de marche avec le Seigneur. Mais ça doit être une vie. Ça doit être, comme on dit en anglais, un lifestyle, un style de vie. C'est ça que Dieu cherche à travailler dans nos vies. Maintenant, pour la majorité d'entre nous, le mot persévérance n'a pas toujours une connotation très positive. Aujourd'hui, le mot persévérance est souvent marié très secrètement à d'autres mots. Ah oui, il faut persévérer. Et parfois, persévérance, tout de suite, on le sent un peu négativement. Il y en a certains d'entre vous, quand j'ai dit ce matin, je vais parler de la persévérance de la foi. Ah ouais, ça va être dur. Le pasteur va nous dire qu'il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Le pasteur va nous dire qu'il faut persévérer. Oh, ma soeur, chérie, écoute-le bien. Il faut persévérer. On s'accroche. Et qu'est-ce qu'on entend souvent? Qu'est-ce qu'on entend autour de nous? Ah, je suis fatigué, mais je lâche pas. Oh, on continue. Ah, je suis démotivé, j'en peux plus. Mais je continue, pasteur. Ah, pasteur, et à travers mes voyages, je rencontre des gens comme ça. Pasteur, je suis dans un désert, mais j'ai pas lâché le Seigneur. Pasteur, je suis sec à l'intérieur, mais je lâche pas. Et souvent, le mot persévérance a une petite connotation négative. J'aimerais vous montrer ce matin, dans la parole de Dieu, il y a 2000 ans, comment les chrétiens le comprenaient, le mot persévérance. Et vous allez voir qu'ils ne le comprenaient pas comme nous, on le comprend aujourd'hui. Les premiers chrétiens évoluaient dans une société gréco-romaine. Et le mot persévérance, chez les Grecs et chez les Romains à l'époque, avait une étymologie, un sens très différent de pour nous. En fait, c'était même très positif pour les Grecs de parler de persévérance et pour les Romains. Et les chrétiens vivaient là-dedans. Écoutez-moi, ce matin, si vous voyez le mot persévérance d'une certaine façon, c'est parce que vous êtes vous-même influencé par votre contexte, par votre famille, par votre personnalité, par votre village, votre ville, la région parisienne, ou peu importe d'où vous venez, on est influencé, on définit les mots selon notre contexte. Et les chrétiens aussi, à l'époque, définissaient le mot persévérance selon leur contexte. Mais leur contexte était différent de nous. Chez les Grecs et chez les Romains, le mot persévérance, c'était quelque chose de très positif. Parce que pour eux, le mot persévérance, c'était une grande dignité. Quelqu'un qui persévérait, c'était celui qui était fort. C'était le vainqueur qui persévérait. Et le mot persévérance chez les Grecs et les Romains avait tout à voir avec la force. Pour un Romain ou pour un Grec, donner un coup de force, ça voulait rien dire. On déterminait celui qui était fort par sa persévérance. Vous savez que c'est les Grecs qui ont inventé le marathon. Parce que pour les Grecs, ce qui était impressionnant, c'était pas quelqu'un qui venait avec des gros muscles et puis qui tout à coup il prenait un gros truc très très lourd. Je vais vous parler des parpaings dans un instant. Vous vous demandez mais pourquoi il y a des parpaings sur l'estrade. C'était pas de venir et de prendre un truc très lourd et de le lever un instant. Un enfant ce matin peut prendre ce parpaing et le lever quelques secondes. Ce qui était impressionnant pour les Grecs, c'est est-ce qu'un homme peut courir 42 kilomètres sous un soleil de plomb l'été à 40 degrés Celsius? Hein? C'était ça le marathon pour les Grecs. Et coureurs de fond. Et ça, ça les impressionnait. Le fameux marathon grec. Les Grecs avaient développé une philosophie de vie qui s'appelait la stoïcité. Et la stoïcité pour les Grecs, c'était la capacité d'un homme de faire un effort ou de traverser une épreuve ou même, pardon, d'avoir une souffrance dans son corps sans qu'on le voie sur son visage. C'est ça la stoïcité. Ça nous a donné aujourd'hui ce qu'on appelle en français, ça vient du latin, ça vient même de ces gens-là, le mot stoïque. On va dire cet homme est stoïque, il est sans émotion, il est de glace. Mais à l'époque, la stoïcité, c'était une philosophie de vie. C'était quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est capable de traverser quelque chose de difficile, quelqu'un qui est un gladiateur qui est capable d'être dans une arène et de se battre et on ne voit pas sur son visage qu'il a peur. On la voit pas sur ça. Il se prend un coup dans l'arène des gladiateurs, mais il garde un visage serein. Et ça impressionnait les Grecs. Pour les Grecs, pour les gens de l'époque, la force d'un homme, c'était sa durée. C'était pas sur un moment qu'on évalue un homme, c'était sur la longévité. Ainsi, la parole de Dieu nous présente la persévérance. Comme quelque chose de positif. Comme une force. Écoutez-moi bien, là. La vraie force que Dieu veut vous donner, une vraie force de vie qui vient du ciel, n'est pas une force pour un moment. Quand Jésus dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit », vous recevrez une puissance. Ce n'était pas pour donner un grand coup d'éclat de foi, c'était pour mener une vie de foi. Vous recevrez une puissance pour marcher par la foi. Mais vous recevrez une puissance et mon juste pourra ainsi vivre par la foi, dans une continuité dans sa foi. Et pas juste un moment de foi. Nous allons regarder ensemble maintenant la définition, la vraie définition de ce mot persévérance. Ça signifie une force. Je vais juste le lire moi-même ici, là, si vous me permettez. Ça signifie, la persévérance est une force, une puissance pour demeurer, rester, porter, être fortifié pour transporter sur une longue période de temps. J'ai vu un jeune homme ici ce matin. Tu t'appelles comment? Charles, viens ici, Charles. Un beau jeune homme, surpris, il dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Là, le pasteur m'avait pas dit. Et Charles va nous faire une démonstration de persévérance. T'es fort, Charles? Oui? Il a dit qu'il était fort. Charles, j'ai 6 parpaings ici. OK? J'aimerais que tu les prennes les 6 sur tes épaules. Non, non. J'aimerais que tu en prennes un. Tu peux en prendre un, Charles? Prends juste un parpaing. Fais attention. Hein. Je suis pas responsable là, s'il se blesse. L'Église d'assurer. Maintenant, tiens-le pendant que je prêche. Selon la parole de Dieu, la persévérance est une force, une puissance pour demeurer. Merci. Pour rester, pour porté. Ça va? Tu me dis, hein, quand t'es plus capable, hein? Tu le fais pas tomber sur mon pied, hein? Pour transporter, viens, transporte-le avec moi, viens, amène-le. Tu tiens bien, hein? Tu peux le porter différemment. Pour transporter sur une longue période de temps, la force que Dieu voulait donner, c'était une force mentale. Viens avec moi, Charles. Pour continuer, et même aller plus loin. Ça va, Charles? Ah, tu m'impressionnes, franchement. OK. Tu peux le déposer avant que ta maman me fasse un procès. Ah, il commence à être chaud, là. Moi, je le touche, il est chaud, il commence à transpirer, là. On lui donne une bonne main. Merci, Charles. Ça va? Il pourrait être maçon, ce jeune homme. C'était ça, la vraie force que Dieu avait. Pour ne pas cesser dans une pensée en faisant preuve de ténacité. C'était ça que Dieu voulait. C'est ça la persévérance que Dieu a pour ses enfants, pour chacun d'entre nous. C'est la marque de la vraie foi. Aujourd'hui, autour de nous, on le voit tellement, les gens ont presque plus de persévérance. Les gens se lassent vite. Avez-vous remarqué? Les gens se lassent vite de plein de choses. Les gens se lassent de leur téléphone portable. Aujourd'hui, quand les gens prennent un nouveau téléphone portable, ils demandent à la compagnie de téléphone « Quand est-ce que je pourrais changer de portable? » Ils ont un tout nouveau, mais ils rêvent déjà de celui qui n'existe pas encore. Parce qu'on se lasse tellement vite. On se lasse de nos vêtements. On veut changer de vêtements. On se lasse de notre téléphone portable. On se lasse de notre voiture. On se lasse de notre déco. Il y a des gens qui... Si vous avez changé de voiture, Dieu vous bénisse. Hein? J'ai aucun problème avec ça. Parfois, il faut changer de voiture. Mais il y a des gens, c'est juste parce qu'ils sont las. Ils changent de voiture, ils changent de déco à la maison. Moi, j'ai vu des gens qui refont toute leur déco. Je dis, mais pourquoi vous avez refait la déco? C'était beau. Ah non, j'en avais marre. OK. J'en avais marre. Il y a des gens qui changent de travail. Ils sont partis du travail, changent de travail. Ils font plus le même travail. Et tu te demandes, pourquoi tu fais plus ce travail? Ah, j'en avais marre. J'étais las. La morosité. J'étais las, j'en pouvais plus. Il n'y a plus cette force, il n'y a plus cette persévérance. Ma femme parlait avec un ouvrier cette semaine, un homme sur un chantier. Et il y a un jeune apprenti qui venait avec lui. Et à un moment donné, le jeune apprenti est parti. Et mon épouse s'est mise à parler avec cet homme, un peu plus âgé, qui a dit, il dit, qu'est-ce qu'ils ont les jeunes aujourd'hui? Il dit, les apprentis viennent sur le chantier et avant que la journée débute, ils me demandent quand est-ce qu'on va finir aujourd'hui? À quelle heure on finit? Manque de force. Je ne le dis pas pour me moquer. Manque de force. On veut changer de maison. On veut changer de mariage. On veut changer de femme. On veut changer d'église. On veut changer de plein de trucs. Parfois, il faut changer d'église. Parfois, certaines choses doivent être faites. Comprenez-moi bien ce matin. Je ne dis pas qu'il faut que tu restes là, ad vitam aeternam, dans une situation. Non, parfois, il faut que ça bouge. Mais pourquoi on veut que ça change? Parfois, parce qu'on est tellement las. Écoutez-moi bien. Cette lassitude peut toucher aussi les chrétiens et les enfants de Dieu. Le chrétien, lui aussi, est soumis à l'épreuve du temps. Et l'épreuve du temps, pour moi, qui, comme vous, essaie de vivre une vie de foi, essaie de marcher par la foi, je réalise que souvent, l'épreuve du temps est le plus redoutable ennemi de la foi. Parce que le temps use. Tu peux te prendre un coup. Tu mets ta confiance en Dieu, tout à coup, tu te prends une mauvaise nouvelle, tu te relèves, t'essuies le coup, tu te remets debout, tu dis, Seigneur, j'ai encore confiance en toi. C'est bon, mais combien savent que les longs moments de silence de la part de Dieu, 3 jours sans que Dieu ait agi. Dieu m'a dit qu'il le ferait, mais ça fait 3 jours et il ne se passe rien. Attends, quand ça fera 30 ans que tu attends une promesse de Dieu? Mon père a prié pendant 30 ans pour son père. Et c'est 35 ans plus tard que mon père, mon grand-papa, a donné sa vie à Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce qui m'impressionne le plus. Oui, que mon grand-père se soit tourné vers Dieu, c'est merveilleux. Mais ce qui m'a impressionné, c'est ces 35 ans de persévérance de la foi, à croire, à s'attendre de Dieu. Et ça, pour les premiers chrétiens, c'est ça qui était beau. C'est ça qui est intéressant. C'est ça quand l'auteur aux Hébreux parle, il dit aux chrétiens, il dit, vous avez besoin de persévérance. Il n'est pas en train de leur mettre un fardeau sur les épaules en leur disant, écoute, t'es sec, tu te sens mort en dedans, tu te sens dans un désert, mais il ne faut pas que tu lâches, t'es fatigué, mais continue, tu roules sur la réserve, mais n'arrête pas. C'est pas ça qu'il est en train de leur dire. Il dit, il existe une force. Quand on disait persévérance, c'était une force. Il existe, les chrétiens, et l'auteur aux Hébreux le dit aux chrétiens, quand il dit, vous avez besoin de persévérance, il dit, vous avez besoin de cette force sur la durée pour continuer, pour ne pas lâcher, une force qui existe. Combien d'entre nous sommes cycliques aussi? Il y a des gens qui sont cycliques. Il y a des cycles qui peuvent durer 10 ans, peuvent durer 3 ans. Un homme tombe, il se décourage complètement dans sa foi, il tombe dans le péché. Il s'éloigne de Dieu. Et finalement, il touche au fond, comme le fils prodigue, la parabole du fils prodigue. Il rentre en lui-même et dit, je retournerai vers Dieu. Il revient vers Dieu. Il nettoie sa vie par ses propres efforts, sans compter sur Dieu. Il se remet en ordre. Il remet sa vie, sa maison, tout autour de lui. Il remet tout en ordre. Il commence à s'approcher de Dieu. Et c'est un cycle. Et il y a des gens qui vivent des cycles comme ça, des cycles qui peuvent durer 2, 3, 5 ans, dans leur marche, dans leur vie. Et qui retombe, et c'est cyclique, et c'est cyclique. Mais Dieu a mieux. Dieu a une force, mon ami, pour que tu continues. Il existe une force persévérante qui brise tous les mauvais cycles, qui brise les spirales descendantes de la vie, qui vient casser tout ça, qui brise les cercles vicieux, le cercle vicieux de celui qui retombe dans le péché, de celui qui fait quelque chose de mal, qui se sent mal, qui son cœur est dur, et finalement, il revient à lui-même, il pleure, il suit ses larmes, « Seigneur, je ne le referai plus », il marche un petit bout de temps, il s'en sort bien, et tout à coup, il retombe dans le truc, il est dans un cercle vicieux de repentance, et c'est parce que « Seigneur, je te demande pardon », il revient, « Seigneur, je te demande pardon », il retombe, et le Seigneur le relève, et « Seigneur, tu m'as pardonné, maintenant je vais y arriver », il existe mieux que ça comme vie chrétienne. Il existe une vie, une force qui est une persévérance de Dieu qui brise tous les mauvais cycles de la vie. Et ça, tu peux le trouver aujourd'hui. Elle existe, cette vie-là. Nous devons comprendre, chers amis, que les promesses de Dieu s'accomplissent rarement de façon instantanée et de façon spontanée. Le chrétien va lâcher, certains chrétiens vont lâcher à un moment donné parce qu'ils ont demandé à Dieu. Dieu a parlé, Dieu leur a fait une promesse, Dieu leur a déposé quelque chose dans leur cœur. Et tout à coup, ça n'arrive pas. Ou bien, Dieu est en train de le faire. Mais, comment je dirais aujourd'hui? Vous avez déjà vu des gens qui, au lieu de planter un arbre, achètent un arbre? Vous avez déjà vu ça? Il y a des gens qui ne veulent pas avoir la patience que l'arbre pousse. Ils vont aller, ils vont acheter l'arbre le plus cher, le plus gros, chez les, comment on appelle ça, les gens qui vendent des arbres, là, les jardineries, voilà. Il va aller chez la jardinerie, et puis il va acheter le plus gros, dans le plus gros pot, il va le faire livrer dans un gros camion, parce que monsieur veut pas attendre que l'arbre pousse. Maintenant, si vous avez déjà acheté un arbre, que Dieu vous bénisse, j'ai rien contre vous. Mais ça fait penser à certains chrétiens, qui, voyez-vous, Dieu est en train de te répondre, mais c'est pas le gros arbre qui est arrivé. Il y a une petite graine qui est en train de germer. Et tu le vois pas, mais Dieu est en train de le faire. Et quand la graine germe, tu le vois pas, tu la ressens pas, tout se passe sous terre, dans le noir, il y a aucune émotion, il y a pas de musique, il y a pas pasteur Sébastien qui est en train de chanter « Il est le Dieu d'éternité » à côté de la plante. Et là, tu dis oh, « j'avais envie de me décourager, mais parce que pasteur Sébastien m'a chanté un bon chant, là, je suis encouragé. » Non, il y a rien, il y a pas de musique, il y a rien. Ça, c'est les films, c'est Hollywood, c'est la musique. Dans les vraies maisons, il n'y a pas de musique comme ça, là. Mais Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de germer. La promesse que Dieu t'a faite est en train de prendre place. Et elle pousse. Au début, elle est une toute petite pousse. Et souvent, certains d'entre nous, ce qu'on veut, c'est le gros arbre. Mais écoutez-moi bien. Parfois, Dieu agit de façon instantanée. Kaboum! Bang! Le colis arrive chez toi. Parfois. Parce que parfois, il faut que ce soit comme ça, sinon tu es mort. Parfois, Dieu va le faire. Mais la plupart du temps, Dieu va agir de façon progressive, lente, silencieuse, sans artifice, sans apparat, sans bling-bling, mais petit à petit, Dieu est en train d'agir. Alors, il faut une chose dans ton cœur. Pour marcher avec ce Dieu, il faut de la persévérance. Il faut de la patience. Il faut dire, Seigneur, je sais que tu es en train d'agir. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. J'aimerais parler à tous ceux qui sont ici aujourd'hui et que vous priez pour un fils qui n'est pas chrétien. Ce n'est pas un moment de prière qui va tout changer. Ce n'est pas une grande prière. Et merci Dieu pour les mardis soirs à la maison de prière, c'est bien. Mais ce n'est pas un moment de prière, ce n'est pas un fracas, ce n'est pas un coup de prière qui va ramener ton fils à Dieu. C'est cette persévérance quotidienne d'aller te placer devant Dieu et de prier pour son âme. C'est pas, ton cœur ne changera pas. Il y a des gens, vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes déçus de vous-même et vous êtes déçus de Dieu. Vous dites, mais pasteur, je lutte avec un péché dans ma vie. Je lutte avec une saleté dans ma vie. Je me suis tourné à Dieu. J'ai demandé à Dieu de m'aider avec cette saleté. Et puis j'ai dit, Seigneur, libère-moi de ce péché. Et puis j'ai cru, pasteur, t'as dit qu'il fallait croire. J'ai cru que Dieu allait me libérer. Il m'a pas libéré. C'est bon, j'abandonne tout. Non. C'est en train de germer dans ton cœur. Mais Dieu agit petit à petit. Il faut pas que tu lâches comme ça. Un couple, mes amis, j'ai vu des gens, on a reçu encore une requête de prière cette semaine sur Internet, des gens qui crient au secours pour leur couple. Combien de couples sont à la dérive? Et quelqu'un qui nous a écrit, au secours, aidez-moi pour mon couple. On va prier pour son couple. Mais croire que Dieu va venir zapper ton mari ou ta femme d'un seul coup de tonnerre spirituel, kaboum, et ton mari, tout à coup, il arrive dans le séjour, un nouvel homme. Ça arrivera pas! Ça arrivera pas. 99,9% du temps, ça n'arrivera pas comme ça. Mais si tu crois et si tu persévères, Dieu va honorer ta foi. La vraie foi, elle persévère. Et quand tu persévères dans la foi, Dieu persévère à agir. Tu persévères dans la foi, Dieu persévère à agir. Tu persévères dans la foi, Dieu persévère à changer ton mari. Et tout à coup, il y a un petit changement qui va germer. Et tout à coup, il y a un petit truc qui a changé dans mon mari. Oh, là, t'es toute contente. Et après, il en fait trois mauvais coups. Ah, je crois plus en Dieu. Non! C'est petit à petit, tranquillement, la foi, tranquillement. Et parfois, il y a des longs déserts où il ne se passe absolument rien. Voyez-vous, quand les Hébreux, les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis d'Égypte pour entrer dans Canaan. Hey! Non! Ils sont sortis d'Égypte pour entrer dans un désert. Et là, Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de ce qui sort de ma bouche pour nourrir sa foi. Et Dieu a pris un peuple de Juifs dans le désert pour nous montrer que parfois il y a des moments dans ta vie où même il n'y a rien qui germe. Il n'y a rien qui pousse. Et parfois, sur une longue période de temps, tu marches avec Dieu, il ne se passe rien. C'est du sable, c'est de la pierre, c'est de la roche. Tu crois en Dieu, tu t'attends à lui, tu marches avec lui, mais il n'y a rien, il n'y a aucun changement, il ne se passe absolument rien. C'est ce qu'on appelle des déserts. Et ça arrive. Voyez-vous, pendant plus de 10 ans, David se cachait dans les cavernes avec une promesse qu'il allait devenir le roi d'Israël. Il n'y a pas une journée où tout à coup ça commençait à germer. Non. Parfois, il y a des longs moments dans ta vie comme ça. Mais quand la promesse de Dieu arrive, elle arrive. Et mon juste vivra par une foi qui est persévérante. Moi, je suis très impressionné. Viens ici, pasteur Sébastien, tu vas m'aider. Je suis très impressionné par les maçons. Ça m'impressionne, un maçon. Vous savez pourquoi? Parce qu'un maçon, il faut qu'il calcule, il faut qu'il pense, il faut qu'il mesure, qu'il nivelle, tout ça, c'est compliqué. Moi, je ne saurais pas être un maçon. Mais il y a aussi un des aspects de son métier, c'est qu'il va prendre un parpaing. Tu me suis, hein? Il va prendre un parpaing, OK, comme ça. Il va le poser. Tu me suis, Sébastien? Il va le poser. Il va mettre du mortier. Et puis, il prend un autre parpaing.
Il se venge des Bretons, là.
Il prend un autre parpaing. Il colle. Il met du mortier. Et il prend un autre parpaing. Il va pas le mettre là parce que c'est un bon maçon, il n'est pas comme moi. Et il va mettre du mortier. Et il va prendre un autre parpaing. Voilà. Et un autre parpaing. Et un autre parpaing. T'as vu, je t'ai pas donné le fardeau, hein? Comme ça. Là, j'en ai fait 6. Vous savez combien de parpaings il faut pour construire une maison? Une maison de 130 mètres carrés, il faut à peu près 1500 parpaings. Va sur un chantier. Va voir le maçon travailler. Il arrive tout le matin, il met ses parpaings. Il met ses parpaings. Il travaille, il mesure, il met ses parpaings. Il y a une certaine... Il y a un certain petit truc ennuyant à toujours faire la même chose, n'est-ce pas? Mais la différence, c'est que lui, quand il a fini, il a construit une maison. La différence entre ceux qui ont juste des élans de foi, des coups de foi, une réunion où tout à coup ils croient en Dieu et le reste de la semaine ils oublient Dieu, et la différence entre ceux qui font des grandes déclarations de foi et celui qui marche secrètement, silencieusement par la foi, c'est que celui qui marche au quotidien par la foi, il est en train de construire quelque chose. Il est en train de construire sa maison. Et Dieu est en train de l'honorer. Et ton couple va se construire par la foi. Ta vie va se construire par la foi. Tes enfants vont servir Dieu si tu développes une vie de foi. Une vie au quotidien. Et là, tu dis, ouais, mais pasteur, tu nous parles de parpaing. Oh là là, tu nous mets un sacré fardeau. Oui. Mais il y a une force pour élever les parpaings. Et Dieu dit, vous recevrez une puissance. Et quand Dieu dit, par la foi et la persévérance, nous obtenons les promesses de Dieu, ça signifiait une foi qui a une force persévérante. Une foi qui est dans une force mentale de continuité à marcher avec Dieu. Et ça fait toute la différence. Je termine avec ceci. L'indispensable persévérance, et en terminant, je termine, Dieu dispense la persévérance. Dieu donne la persévérance. Regardez-moi bien, j'ai bientôt terminé. Dans Romains chapitre 15, verset 5, l'apôtre Paul va dire, pas besoin de tourner, je le lis pour vous, le Dieu de la persévérance. Paul dit, c'est pas à toi de te rebooster. C'est pas à toi de t'auto-motiver. Je ne crois pas à un évangile humaniste, humain, où moi, par mes efforts, je vais y arriver. Non, je crois pas à ça. L'apôtre Paul n'y croyait pas non plus. Mais l'apôtre Paul croyait au Dieu de la persévérance. Quand les chrétiens, quand les Romains, parce que c'était l'épître aux Romains, quand les Romains ont lu l'épître de Paul, vous savez comment ils l'ont lu? Ils l'ont lu comme ceci. Mais le Dieu de la force dans la continuité va vous aider. Le Dieu qui donne une force qui est continuelle, une puissance qui est continuelle. Voyez-vous, Jésus, dans le chapitre 5 de l'Évangile de Jean, dira, « Le Père a la vie éternelle. Et il a donné au Fils, donc lui-même, Jésus, d'avoir la vie éternelle. » Et dans Jean 3, la Bible dit, « Mais ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. » Donc, Jésus est le propriétaire de la vie éternelle. N'est-ce pas beau? Mais c'est quoi cette vie-là? C'est une vie. C'est une vie dans ta vie. Le mot ici, dans le grec utilisé, c'est le mot « zoé ». Ce n'est pas la vie biologique, parce que le mot pour la vie biologique dans la Bible, c'est le mot « bios », « bios ». C'est qui fait de toi un être humain vivant. C'est pas cette vie-là. C'est « zoé ». « Zoé », c'est la vie éternelle, c'est la vie que Dieu a en lui. Voyez-vous, quand j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne se fatigue pas parce que Dieu est éternel. Dieu est la source, il est Zoé. Et dans sa première lettre, Jean dira, dans 1 Jean, Jean dira, nous avons vu la vie éternelle. En voyant Jésus, on a vu la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Il est cette source de vie continuelle. Il est cette source de persévérance. Parce que la Bible, c'est une vie qui est éternelle. La vie bios s'arrête. Et à un début. Mais la vie Zoé, la vie éternelle qui est la vie que Dieu a en lui, n'a pas de début, n'a pas de fin et ne connaît pas la fatigue. Et la Bible dit que Jésus s'est offert à la croix par une vie éternelle qui était indestructible. C'est écrit ça. Donc la vie que Dieu a en lui est plus forte que tout. Et Jésus dit, ceux qui croient en moi, je vais leur donner cette vie. Je vais te donner une vie qui est plus forte que tout. Je vais te donner, je le dis pas pour me moquer. Mais il y a des gens ici, vous êtes sous un patron tellement dur, et il va vous avoir à l'usure. Mais tu peux aller trouver en Dieu cette vie éternelle indestructible qui est plus forte que tout. Il y a des gens, vous êtes ici, vous souffrez dans votre corps, et vous avez une maladie. Et vous dites, mais pourquoi Seigneur ne me guérit pas? Parfois Dieu guérit. Mais ce qui glorifie le plus Dieu, c'est quand tu démontres la puissance de la vie éternelle dans ta vie. D'être capable d'être dans une souffrance physique, mais d'avoir cette force de vie. Être capable de rentrer chez toi avec des pressions financières énormes, un poids énorme, mais d'avoir cette force de vie. D'être capable d'attendre ton fils qui rentre tard et quand il rentre, il a la mort sur son visage et tu t'inquiètes pour lui et tu continues à prier, tu continues à croire. Et chaque fois que tu es au contact de ton fils, c'est comme si la vie était au contact de... C'est comme si la vie rencontrait la mort, mais la vie est plus forte que la mort. Et quand il arrive, ton fils à la maison, qu'il a l'air, qu'il peut avoir des paroles de mort, des paroles dénigrantes envers sa mère et qu'il peut être... Crois-moi, c'est parce que Dieu est en train de travailler son cœur. C'est parce que tu pries que tu crois que Dieu peut le ramener. Il est perturbé, il est pas bien. Il peut te lancer une parole de mort. Il peut amener un nuage de mort dans la maison. Mais Dieu a une vie éternelle pour toi qui est plus forte que tout ça. Qui est indestructible. C'est ça l'évangile. OK, pasteur. Où est-ce qu'on la trouve, cette vie? Tournez avec moi dans Ésaïe. Si vous n'avez pas une Bible, le verset apparaît à l'écran. Ésaïe. Chapitre 40. C'est Dieu qui dispense la persévérance. Ceux qui se confient en l'Éternel, un grand classique, hein, vous le connaissez. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, juste avant le texte, juste avant ce verset-là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, même les jeunes, même les adolescents se fatiguent et se lassent. On vit dans une société où nos jeunes sont fatigués de la vie. Ils peuvent le cacher par un beau sourire, mais sans Jésus, ils ont cette fatigue de vie. Je le vois partout. Mais la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce que ça dit? Ils renouvellent leur force. Écoutez-moi bien, là. Je vais vous choquer. Il y a des chrétiens, je vais vous choquer. Vous allez dire, mais c'est pas biblique ce qu'il dit. Tu n'es pas le propriétaire de la vie éternelle. Tu n'es pas la source. Si tu n'as pas une marche au quotidien où tu vas te ressourcer en la vie éternelle qui est Dieu, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas te vider. Tu auras toujours ton ticket pour le ciel parce qu'on est sauvé par grâce. Mais la vie éternelle, c'est pas un ticket pour le ciel. C'est pas théologique, ça. La vie éternelle, c'est pas la vie qui t'attend de l'autre côté. C'est pas ça, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette vie de Dieu que Dieu veut reverser en toi pour que tu aies une force de vie au quotidien. C'est ça, la vie éternelle. C'est ça, la vie éternelle. Et elle te donne une force pour être persévérant. Et la Bible dit, c'est pas ceux qui vont à l'église, c'est pas ceux qui lisent la Bible, c'est pas ceux qui sont religieux, c'est pas ceux qui prennent la sainteté. Non. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui aiment l'Éternel. Ceux qui ont une intimité dans le lieu secret avec Dieu. Jésus a dit, mais toi, quand tu vas prier, va dans ta chambre la plus retirée, ferme la porte et ton Dieu est là. Et là, tu sais pas ce qui se passe, mais pendant que tu es seul avec Dieu et tu lui donnes toute ton attention, le Seigneur est en train de renouveler tes forces. Et la Bible dit, il y a même une très belle traduction qui dit, ils retrempent leur énergie. Ils prennent leur envol. C'est incroyable, pasteur Sébastien, ça ne veut pas que j'allais lire ce verset-là. On a chanté ce chant-là. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. C'est quoi ça? Ça, c'est le Nouveau Testament, mon ami. Ça, c'est la vie en Jésus-Christ, mon ami. Ça, c'est un chrétien, ça. Ça, c'est la destinée d'un chrétien. Il a une persévérance. Il a une force pour continuer. J'invite les musiciens à s'approcher. Je termine avec un très beau témoignage. On avait essayé de préparer une petite vidéo, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Le plus important, c'est le témoignage de cet homme. Donnez-moi vraiment toute votre attention en terminant. Il y a 25 ans, en Louisiane, aux États-Unis, un nouveau directeur de prison est arrivé dans la pire prison de l'histoire américaine. Cette prison s'appelle la prison Angola. Lorsqu'il y avait l'esclavage aux États-Unis, c'était des champs dans lesquels il y avait des gens de l'Angola, des Africains de l'Angola qui étaient là, qui travaillaient dans les champs. Après l'esclavage, après la guerre de sécession de l'esclavage, c'est devenu une prison. Aujourd'hui, c'est la plus haute prison sécurité maximum aux États-Unis. Il y a 5000 prisonniers. La moyenne de durée de détention des peines qui sont données à ces hommes-là est une moyenne de 80 ans. Ils ont ce qu'on appelle le couloir de la mort, où il y a une salle où les condamnés à mort sont, parce qu'il y a la peine de mort en Louisiane, où les condamnés à mort sont exécutés dans cette salle. Restez bien avec moi, c'est incroyable. C'est la pire prison. On disait de cette prison qu'il y avait du sang partout. Quand un nouveau détenu arrivait pour purger sa peine, le gardien de prison lui donnait le premier conseil. Il lui disait, le premier conseil que je te donne en arrivant ici, procure-toi une arme, parce que c'est tellement dangereux. On confisquait 800 armes par année, des haches, des armes à poing, des fusils, toutes sortes de choses à ces hommes-là. L'État, le gouvernement ne voulait pas investir un centime dans cette prison. On disait, c'était des condamnés à mort, c'était ce qu'on appelle des lifers, ils sont là à vie, il n'y a rien à faire avec ces gens-là, il faut juste les confiner dans un endroit pour pas qu'ils s'en aillent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent entre eux, et l'État ne voulait rien investir. Pour 5000 prisonniers, il fallait 2000 gardiens. Des hommes terribles. Une des phrases qui était la plus prononcée par les prisonniers était celle-ci, « Nous en avons tellement enterré. » Parce qu'à chaque jour, il y a des gens qui mouraient de violence. Il y a 25 ans, il y a un chrétien qui est arrivé là, comme nouveau directeur de la prison. Il s'appelait Burl Cain. Et quand Burl Cain est arrivé, son prédécesseur, en partant, en faisant ses cartons en partant, lui a dit, « Tu ne feras pas 5 ans ici. » Il dit, « C'est la pire prison de l'histoire des États-Unis, sécurité maximum. » Il dit, « Ici, il y a plus de démons que de prisonniers. Et moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois aux démons. » Vous savez ce que Burl Cain a dit? Avec l'aide de Dieu, je les chasserai tous. Dis-moi, je crois en Dieu. Ça ne s'est pas fait sur un coup de foi. Là. Écoutez-moi bien. Il faut vraiment que tu comprennes ça pour ta vie. Ce n'est pas un coup de foi. Ce n'est pas une proclamation de Burl Cain. Oh, avec Dieu, je les chasserai tous. C'est un moment de foi, tout à coup, boum, la prison a changé. Non. Ça s'est fait sur 25 ans. 25 ans plus tard, vous savez quoi? Il y a, sur 5000 prisonniers, il y a 1000 chrétiens. Il y a 4 églises. Il y a, je l'ai dit mardi soir, je ne sais plus, il y a 147 pasteurs. Il y a une école biblique qui forme des pasteurs. Un témoignage exceptionnel. Et des 800 armes qui étaient confisquées chaque année, aujourd'hui, ils en trouvent moins de 45. Le témoignage de la prison d'Angola est tellement exceptionnel. Vous allez sur Internet aujourd'hui, tapez sur Google. Je vous mets le défi. Tapez sur Google, Angola, prison, Jésus, machin, parce qu'il y a des films à Hollywood qui ont été faits sur cette prison. C'est un endroit d'horreur. Mais allez faire vos petites recherches vous-même. Vous allez voir. Il y a des témoignages. Il y a plein de témoignages sur YouTube qui sortent tac, tac, tac. J'ai montré mardi soir, il y a un homme à la prison Angola. J'ai montré son témoignage mardi soir sur une vidéo. Il n'en pouvait plus. Il dit, j'étais un sataniste. Tous les soirs, ils étaient 4 dans la même cellule à dormir sur des lits de camp. Il dit, tous les soirs, je me mettais nu, je m'assoyais et j'offrais un sacrifice à Satan. Et ceux qui étaient avec moi dans ma cellule me respectaient. J'étais un sataniste. Puis il dit, ici, il y a tellement le désespoir parce que tu sais que tu vas mourir ici. Puis il dit, un jour, je me suis dit, je vais me suicider. Et de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Mais il dit, il y a quelque chose de très mal qui est monté en moi, qui m'a dit, tu ne vas pas te suicider comme ça. Tu vas faire un carnage avant de partir. Il est allé dans les cuisines, il a volé une casserole, il a coupé la casserole, il en a fait une hache, une grosse hache. Puis il s'est préparé, puis le jour fatidique est arrivé, puis il a dit, aujourd'hui, je fais un carnage. Il voulait aller, parce qu'ils ont fait, il n'y avait rien dans cette prison. Ils ont fait une école aujourd'hui. Il y a plusieurs centres de formation. Ils ont des cours de cuisine, toutes sortes de choses. C'est extraordinaire ce qui prend place là-bas. Vous savez, quand quelqu'un dit un gros mot aujourd'hui, dans la prison d'Angola, quand quelqu'un dit un gros mot, il y a des chrétiens qui viennent autour de lui, d'autres prisonniers qui lui disent « Tu vas me faire 10 pompes. » On ne dit plus de gros mots ici. Les gardiens de prison sont interdits de dire des gros mots. Tout a changé. Mais cet homme est arrivé avec sa hache, puis il dit « Aujourd'hui, je vais faire un carnage. » Puis il est sorti de sa cellule. Puis ils ont quand même des endroits où ils peuvent aller. Et il est arrivé devant l'église. devant l'église, avec sa hache. Puis je ne sais pas comment l'expliquer. Je me suis surpris à entrer dans l'église. Je me suis assis dans l'église. Je me suis mis à parler avec le pasteur. Il dit 20 minutes plus tard, j'étais prosterné devant Jésus. J'ai donné ma vie à Dieu. C'est beau, hein? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ce matin? Pour ta foi. C'est pas un coup de foi qui a tout changé. C'est une vie quotidienne. Il y a un homme qui est arrivé là-bas, puis il dit, avec l'aide de Dieu, je les chasserai. Puis un à la fois, un jour à la fois, un parpaing à la fois. Et au bout du compte, tu as construit une maison pour Dieu. Dans ta vie, c'est un jour à la fois. Dans ta famille, il faut que tu crois. Tu ne crois pas une heure par semaine, là. Tu ne crois pas une fois de temps en temps. Tu crois comme tu respires. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je m'approche de toi. Et quand ta foi faiblit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur foi. On ne peut pas toujours être en train de prier. La Bible dit prier sans cesse, mais je ne suis pas encore arrivé là. Moi, je ne sais pas comment prier tout le temps. Mais il y a des moments où je vais retremper ma force en l'Éternel. Où je vais me reconfier en lui. Et tout à coup, il recharge mes batteries de foi. Et Dieu, après, honore la foi. Mais mon juste vivra par la foi. Pas mon juste aura des coups de foi, non. Mon juste aura une vie de foi. Amen. On se lève ensemble? Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux un instant ce matin? Nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs à l'Église, mais à être des participants. Nous ne sommes pas appelés juste, comme j'ai dit en début de message, la vraie foi va saisir. La vraie foi va s'approprier, va manger, va digérer ce que Dieu a dit. Et ce midi, alors que nous terminons, j'aimerais vous demander juste une dernière minute, avant de partir, avant de passer à la communion fraternelle, un dernier instant pour te placer devant Dieu, toi seul, oublier tous les gens autour de toi. Parce qu'un jour, nous serons seuls devant Dieu. Mais tu peux te placer aujourd'hui devant Dieu. Et tu peux dire maintenant, Seigneur, je vais m'approprier ta parole ce matin, Seigneur. Je vais croire en ta parole, Seigneur. Seigneur, je vais aller chercher en toi une force, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, je suis un homme tellement occupé, Seigneur, qui court à droite et à gauche. Mais Seigneur, je veux me confier en toi, Seigneur. Je ne veux pas me confier dans les hommes, Seigneur. Je ne veux pas me confier dans ma force, Seigneur. Je ne veux pas être cyclique. Seigneur, toi, tu brises tous les mauvais cycles, Seigneur. Et tu nous fais entrer dans une continuité de foi, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Commence à tourner ton cœur vers Dieu maintenant. Commence à lui parler tout doucement. Tu peux murmurer tout doucement. La Bible dit de Anne, elle murmurait, mais l'Éternel entendit ses paroles. Tu peux maintenant, tu fermes tes yeux là où tu es, tu commences à lui parler. Hallelujah. Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur. Tu es le Dieu de la persévérance, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie éternelle. Hallelujah. Tu veux me donner une force éternelle, Seigneur, que je ne peux pas garder en moi-même, Seigneur, mais que toi, tu peux me communiquer jour après jour. Hallelujah. 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 Tu es bon, Seigneur.